Bonjour à tous et bienvenue au coup de main pour l'emploi de Sud Radio. Un coup de main pour l'emploi qui, depuis deux semaines et demie, s'attelle à la lourde tâche et ô combien précieuse de faire témoigner des personnes sur des parcours. Alors, c'est vrai qu'on a un certain nombre de personnes qui, lorsqu'ils présentent leur CV, présentent leur parcours, s'excusent là où ils n'auraient pas du tout besoin de s'excuser en disant « ben voilà, moi je suis désolé, mais j'ai un parcours atypique » en formulant entre mi-mot à demi-mot. C'est ce type d'excuses et en signifiant simplement qu'ils ont plusieurs casquettes, plusieurs cordes à leur arc, plusieurs métiers qui sont venus ponctuer leur parcours professionnel. En fait, en réalité, le vrai parcours atypique aujourd'hui serait celui d'une personne qui serait restée plus de 35 ans sur un même poste au sein d'une même entreprise. Et c'est tellement vrai que nous accueillons aujourd'hui Kevin Cordhomme qui va nous livrer un petit peu les chemins un peu sinueux de son parcours. Bonjour Kevin.
Bonjour, vous allez bien?
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce chemin?
Bah oui, je vais vous expliquer. Il y a plusieurs, arcs à mon actif. Mm-hmm. Donc, tout d'abord, j'ai commencé sur un diplôme quand j'étais plus jeune. Donc, je parle de ça vers les 2011-2010. Mm-hmm. J'étais en préparation de vendeur magasinier de pièces automobiles.
D'accord.
Donc, il consiste à repérer. Enfin, comment expliquer exactement? En gros, j'étais vendeur, je devais essayer de magasinier. C'était pour les magasins de voitures, motos, tout ça. Mm-hmm. Pour récupérer, pour les pièces, tout ça. Donc, je suis parti sur ce diplôme-là, que j'ai pas obtenu malheureusement pour des problèmes de santé. Mm-hmm. Donc, après, j'ai dû arrêter et je suis parti dans la. Dans une expérience de plongeur dans un restaurant.
Alors, on passe de vente de pièces détachées
à donc, plongeur restauration.
Un contact clientèle, une activité commerciale, une activité de restauration, plongeur dans un restaurant.
C'est ça.
Ok.
Après, c'était beaucoup d'extra, donc on a changé un petit peu aussi. Mm-hmm. Je suis passé de plongeur à préparateur de commandes dans un vente privée.
Mmh. Donc, encore activité commerciale, restauration, on atterrit sur la logistique, roulement de tambour, quel est le secteur d'après?
Celui d'après, préparateur de commandes.
Mmh. Alors toujours dans la logistique.
Voilà, on retourne un peu dans la logistique. Alors, ça a duré quelques temps parce que c'était de l'intérim.
Alors, atterrissage dans la logistique au gré d'une formation, vous avez dû passer un CACES, comment ça s'est passé?
Du tout, juste de l'intérim.
Juste de l'intérim, d'accord.
Voilà. Ils ne m'ont demandé pas grand chose à part savoir bosser, lire et écrire.
Mmh, parfait.
Donc voilà. Donc ça a duré près 3-4 mois parce que c'était de l'intérim. Mmh. Après, on rechange d'univers. Mmh. Je travaille en tant qu'intermittent du spectacle.
Alors, intermittent du spectacle, mais pourquoi? Dans quel contexte?
Euromédia.
D'accord.
Euromédia, ENA et SFP.
Mmh. Ok, ensuite?
J'ai été menuisier et vitrier.
D'accord.
Donc, rien à voir du tout, qui n'a rien à voir ensemble.
Effectivement.
Donc voilà, parce qu'on m'a proposé un petit contrat, parce que j'étais un peu dans la galère, j'avais besoin de travailler pour pouvoir subvenir mes besoins et surtout pouvoir aider ma grand-mère.
Mmh. À la longue biographie professionnelle de Kevin, je vais devoir... Mais alors, il y a quand même un message en synthèse qui est très important dans le parcours de Kevin Cordhomme, c'est que, encore une fois, et ça c'est banal aujourd'hui, et il faut le dire que c'est banal, les gens sont très enclins, très aptes à passer d'un secteur à un autre, que les entreprises elles-mêmes sont capables de pouvoir accueillir des gens d'horizons très différents, au gré parfois de formation ou pas, au gré parfois de contrats d'intérim, trois petits points ou pas, ou d'intermittence. Hein. Cette mobilité, elle est parfois un handicap, elle est parfois un inconvénient, et puis parfois elle peut rendre service à pouvoir intégrer un nouveau secteur. En tout cas, bravo pour votre kaléidoscope, surtout. Très bonne nouvelle année, en espérant qu'elle vous apporte un petit peu plus de... Alors, je ne vous souhaite pas forcément plus de stabilité, mais en tout cas de trouver une voie qui vous permettent de répondre peut-être à tous les soucis que vous avez pu rencontrer dans les années précédentes.
Bah, actuellement, ça va, je suis en poste.
Parfait. Eh bien, félicitations, Chapabois, pour votre courage. Je vous souhaite une excellente journée.
Au revoir.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel.
Merci Jérôme Laverny. 6h21, autant vous le dire, c'est une journée particulière qui nous attend, celle du 5 janvier. Je vais d'abord vous rappeler les grands moments de ce 5 janvier. On va à la fin du 19e siècle. Le 5 janvier 1875, inauguration de l'Opéra Garnier à Paris. Et puis, c'est le fameux jour de la dégradation du capitaine Dreyfus après sa condamnation du 22 décembre. Vous avez vu le film « J'accuse » de Roman Polanski avec Jean Dujardin. Eh bien, cette dégradation, c'est la première scène du film, le 5 janvier 1895.
Le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu, à l'unanimité des voix, le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison. Et l'a condamné à l'unanimité des voix à la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire.
Alfred Dreyfus, au nom du peuple français, nous vous dégradons.
Oui, c'est très puissant, c'est très prenant. Et allez, on se remet, l'anniversaire du jour, on part du plus ancien au plus jeune, 84 ans, le roi d'Espagne, Juan Carlos Ier, Dany Saval, Madame Michel Drucker, 80 ans, Olivier Barou, vous savez de Cadet Olivier, 58 ans, c'est plus un perdreau de l'année, Lulu reste le petit Lulu. Oui, qui est ce Lulu? Ben, le fils de Serge Gainsbourg et de Bambou, 36 ans, aujourd'hui, et vous souvenez, cette belle chanson chantée par sa maman, écrite par son papa? C'est bon pour l'avoir en tête toute la journée. Hein. Lu. C'est marrant, hein, l'intonation de voix, ça ressemble tellement à Jane Birkin. Mais c'était bien Bambou. Beaucoup de choses à venir dans un instant sur Sud Radio, les grands matins, vos pronostics pour les courses. La météo, autant vous le dire, c'est très froid. Et puis le journal avec la politique, c'est très chaud.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai. Vrai Sud Radio.
Parlons vrai. Vous voulez dévaler les pistes des Pyrénées grâce à Sud Radio, Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 ? Pour bien commencer 2022, partir deux jours à la montagne dans les stations de Gourette, La Pierre-Saint-Martin ou Artoust en hébergement pour deux, plus les forfaits et le matériel, écoutez le Grand Matin Sud Radio et gagnez votre week-end montagne en Béarn-Pyrénées. Bonne année avec Sud Radio.
Ne vous mettez pas en retard, les leftos, il est 6h27. Vous avez peut-être envie d'un petit tuyau. Moi aussi d'ailleurs, Jean-Paul Delperrier, bonjour. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui au niveau des courses? Vous allez nous faire gagner, j'espère.
Oui, j'espère, mon cher Frédéric. Bonjour à tous. L'hippodrome de Vincennes nous accueille avec le prix de Limours sur les 2100 mètres avec 14 concurrents puisque nous avons deux noms partants, le 8 Elfatou et le 15e Chancé. Et si vous m'avez suivi hier, vous avez touché le tiercé dans l'ordre. On va essayer de faire aussi bien aujourd'hui. Le 3 Eva de Guérinière sera donc ma base devant le 6 Extrême des Bois qui arrive du sud-ouest, 10 Emblème Castellet, 16 Dirmonnet, 11 Espoir du Noyer, 4 Réca du Fossé, 13 Émeraude de Baie et l'As Élixir de Crène. 3, 6, 10, 16, 11, 4, 13 et As. Pour ma sélection du jour à Pau, en réunion 3, course 4, avec le 2 John for Always.
Merci Jean-Paul Delperrier. Il y a mon chiffre préféré, le 13. Je vais y aller, je vous suis. Et tous vos pronostics, en tout cas, sur le site sudradio.fr.
La météo Sudradio.
Alors, je disais, c'est froid, cher Rémi André. Vous ne pouvez rien faire pour nous. Ça va se réchauffer très lentement, d'après ce que vous nous dites.
Comme vous dites, effectivement, c'est-à-dire qu'on a de la peine à se rendre compte qu'hier il faisait encore 22 degrés du côté de Pau ou de Tarbes, alors qu'aujourd'hui on n'y dépassera pas les 7 degrés. Vous voyez un petit peu la chute des températures, c'est juste un exemple, car dès ce matin, eh bien, les températures se sont quasiment partout rafraîchies, sauf encore sur le piémont pyrénéen où on a les restes de la perturbation avec un petit peu de pluie et de la neige dès les 5 à 600 mètres d'altitude. De la neige, d'ailleurs, on en trouve pas mal sur les Alpes actuellement, elle tombe assez abondamment. Mais là, dès les 300 à 400 mètres d'altitude également, 200 mètres d'altitude pour le Massif central, notamment sur l'Auvergne. Et alors là, ça tombe en pleine du côté donc de Nancy. Ce qui fait que nous avons ce rafraîchissement qui ne nous permettra pas aujourd'hui de dépasser les 7 degrés à Paris. Nous irons jusqu'à 6 degrés seulement à Lyon. Même à Bordeaux aujourd'hui, on n'aura que 10 degrés. À Toulouse, 8 degrés. Vous voyez qu'il faudra aller sur la Corse pour trouver des températures voisines de 15 degrés. Donc ce net rafraîchissement malgré tout s'accompagne d'un air un petit peu plus sec, ce qui fait que dans l'après-midi il ne restera plus que quelques ondées ou quelques averses sur de neige bien entendu sur le relief, alors qu'en pleine eh bien ce sont les éclaircies qui vont gagner du terrain.
Et oui, c'est rien de surprenant finalement, nous sommes en janvier, rien de surprenant aussi, il fera beau en Corse. Merci Rémi André. Il est pile 6h30.
Bonne année avec Sud Radio.
Voici vos informations présentées par Sophie Sarance. Bonjour.
Bonjour à tous. Une petite phrase qui met le feu à la classe politique. Emmanuel Macron s'en est pris aux non-vaccinés dans une interview au Parisien. Et des mots forts qui ont provoqué la colère de l'opposition et une nouvelle interruption de séance sur le pass vaccinal à l'Assemblée. Et en attendant la reprise des débats, un nouveau conseil de défense sanitaire se tient ce matin. Alors qu'on a enregistré un nouveau record des contaminations hier soir, record porté en partie par le variant Omicron, un variant dont on apprend un peu plus chaque jour. Et puis en foot, le derby du Nord a tenu toutes ses promesses, suspense jusqu'au bout en 16e de finale de la Coupe de France. Mais à la fin, c'est Lens qui s'est imposé au tir au but hier soir. Emmanuel Macron provoque un tollé. Dans un entretien au journal Le Parisien, le président de la République assume la stratégie du gouvernement et son bras de fer avec ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Et le chef de l'État ne mâche pas ses mots, Léa Guichou.
Oui, Emmanuel Macron hausse le ton, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans un langage fleuri, il déclare au lecteur du Parisien « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder ». Une petite phrase qui fait vivement réagir dans la classe politique. Propos indigne et irresponsable, juge le candidat PCF Fabien Roussel. En pleine pandémie, il faut convaincre et non diviser, réplique Delphine Bateau, porte-parole du candidat écologiste Yannick Jadot. Emmanuel Macron ne semble donc pas compter sur les antivax pour sa réélection. Car oui, il n'y a pas de suspense. Le chef de l'État confirme son envie d'être candidat. Mais il précise qu'il dira ce qu'il en est dès qu'il y aura les conditions sanitaires qui le permettent et que le sujet sera clarifié.
Et les mots du président ont une nouvelle fois perturbé la séance sur le pass vaccinal à l'Assemblée. L'examen du texte a une nouvelle fois été suspendu cette nuit. Avant cela, un consensus avait été trouvé. Les députés ont décidé de fixer à 16 ans l'âge pour le pass vaccinal, contre 12 ans dans le projet initial, un changement validé par Olivier Véran. Et sur le front de l'épidémie, Santé publique France enregistre un nouveau record de contamination. Plus de 271 000 cas ces dernières 24 heures et plus de 20 000 malades du Covid hospitalisés. Autre chiffre vertigineux, le taux d'incidence chez les 20 à 30 ans, 3000 cas pour 100 000 habitants. Est la faute à ce variant Omicron qui se propage à vitesse grand V. Mais alors, que sait-on de ce fameux variant aujourd'hui? Écoutez les explications d'Antoine Flao, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève.
Les données qui nous sont remontées d'Afrique du Sud, du Royaume-Uni, du Danemark, sont plutôt des bonnes nouvelles concernant la virulence. C'est-à-dire, par exemple, le pourcentage des cas hospitalisés est trois fois moindre avec Omicron qu'avec le variant Delta. Et puis, chez les personnes hospitalisées, le pourcentage qui se présente en réanimation est environ à nouveau deux fois moindre que pour le variant Delta chez les personnes hospitalisées. Donc un peu à tous les étages de la gravité, de la virulence, on a l'impression qu'on est gagnant avec le variant Omicron, qu'il est beaucoup moins virulent.
Et de son côté, l'OMS appelle à la prudence malgré ces données rassurantes. La multiplication des cas dans le monde pourrait accroître le risque d'apparition d'un nouveau variant plus dangereux. Et dans le reste de l'actualité, une nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubilard. Ce sont ses avocats qui l'annoncent. Elle sera déposée pour la quatrième fois devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse mardi prochain, le 11 janvier. Cédric Jubilard est le principal suspect dans la disparition de son épouse Delphine en décembre 2020 à Cagnac-les-Mines. Il clame son innocence. Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Un véhicule d'assistance du Dakar 2022 a explosé jeudi dernier en Arabie Saoudite, quelques jours avant le début de la course. Le pilote français Philippe Boutron a été gravement blessé. Le ministère français des Affaires étrangères a appelé ses ressortissants à la vigilance maximale. Et du foot et un thriller pour clore les 16e de finale. Scénario dingue pour le derby du Nord en Coupe de France. Mené 2-0 par Lille, Lens se qualifie au tir au but pour les 8e de finale devant seulement 5000 supporters. Les Lensois menés en 5 minutes sont revenus à 2-2 dans les dernières secondes. Et avec les tirs au but, c'est une soirée très intense qu'a vécu l'entraîneur de Lens, Francaise.
C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Et surtout, pour nous, elle termine sur des émotions très très positives. Donc, évidemment, c'est encore plus plaisant. C'est aussi un peu la magie de la Coupe. Ça aurait été un très très beau match de championnat. Mais c'est la Coupe et il fallait un vainqueur. On a eu la chance que ça soit nous. Le scénario, c'est sûr que deux buts en 5 minutes. Sur le plan moral, les joueurs pouvaient être touchés. Mais on est revenu dans la partie à 2-1 très vite après la rentrée des trois premiers remplaçants. On a été chercher le deuxième. Et tous ceux qui sont rentrés ont apporté fortement à l'équipe, en plus de ceux qui avaient commencé.
Lens sera opposé à Monaco en 8e de finale les 29 et 30 janvier. Le tirage au sort a eu lieu hier soir, juste avant le coup d'envoi. Les autres affiches, Versailles-Toulouse, Bergerac-Saint-Etienne, Nancy-Amiens, Reims-Bastia, Nantes-Brest et puis les chocs Marseille-Montpellier et PSG-Nice. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Très bonne matinée avec Sud Radio.
Merci beaucoup Sophie Sarantz.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel.
Et des questions que nous vous posons depuis ce matin, c'est très politique. Hein. Que pensez-vous de la déclaration d'Emmanuel Macron? Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, on va continuer à le faire. Alors, un, c'est une provocation. Deux, c'est un discours clair. Trois, c'est inacceptable. Trois propositions, vous relevez le défi, vous allez donner votre avis sur le compte Twitter ou sur le Facebook de Sud Radio. Puis une autre question aussi, alors là, c'est par oui, par non. Hein. Vous cliquez dans le débat sur le pass vaccinal, l'opposition fait-elle un coup politique, oui ou non, à vous de jouer. On vous donne beaucoup la parole et vous le savez, c'est le principe de votre rendez-vous de 6h36. La vie en vrai.
Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai.
6h36, il est là, fidèle, on l'avait dit, vous n'hésitez pas, vous aussi, hein, à nous appeler pour donner votre avis. On va à Aix-en-Provence, c'est ça Georges?
Oui, c'est bien ça.
Vous avez déjà acheté un œil à l'extérieur. Rémi André disait frais partout, hein, c'est ça?
Oui, il doit faire un peu frais dehors. Ouais. j'ai pas encore le thème dehors.
Ça donne pas envie, hein, ça donne pas envie voilà. De sortir. Bon, Georges, vous avez une fille de 12 ans et vous souhaitez revenir sur le fait qu'elle n'est pas vaccinée, déjà, première chose, et du coup, elle n'a pas les mêmes droits que ses camarades à l'école.
Oui, en fait, moi, j'ai un petit point qui me dérange. C'est à la rentrée 2021, c'est-à-dire en septembre, Monsieur Blanquer avait essayé de mettre en place une ségrégation, hein, j'appelle ça comme ça, entre les non-vaccinés et les vaccinés. C'est-à-dire que les enfants non vaccinés devaient rentrer à la maison en cas de cas contact avec une personne Covid, et les vaccinés restaient à l'école. Cette proposition avait fait un tollé à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous rappelez. Les journalistes, les politiciens avaient pris ça à cœur, et puis ils avaient retiré cette proposition. Et à ma grande surprise, début janvier, dans le nouveau protocole proposé, ben, ils ont remis ça en place. Et c'est-à-dire qu'actuellement, ma fille qui a 12 ans, dont je vais expliquer pourquoi je ne l'ai pas encore vaccinée, devrait rentrer à la maison en cas de cas contact, alors que ses copines en classe pourraient rester, alors qu'on sait très bien que la contamination, le vaccin n'arrête pas la contamination du virus, et c'est-à-dire une copine qui est cas contact comme elle peut aussi bien transmettre en classe à ses copines, mais par contre, elle a le droit de rester.
Alors, juste Georges, pour encadrer, on rappelle que si l'enfant n'est pas à jour de ses vaccinations obligatoires, seule une admission provisoire est possible en crèche, par exemple, et une assistance maternelle ou à l'école. Mais les parents ont alors 3 mois pour régulariser la situation. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un cadre. Simplement, on rappelle que ce n'est pas le vaccin qui là est obligatoire, mais du coup, le passe.
C'est le pass, oui, mais là on parle du vaccin Covid. Et moi, ce qui m'inquiète en tant que parent, parce que je précise quand même que je suis vacciné, en tant que parent, ce vaccin qui est pour moi tout jeune, pour des enfants en pleine puberté, m'inquiète. Voilà, je suis pas un enragé, un non-vaccin.
Oui, vous êtes vacciné, hein, vous nous le confirmez.
Je suis vacciné, ma femme est vaccinée, donc on a la quarantaine, donc on rentre dans un âge où on doit peut-être se vacciner. Par contre, un enfant qui a un bénéfice-risque si faible comme elle, je ne vois pas l'intérêt de vacciner. J'ai une autre fille qui a 9 ans, je ne vois pas aussi l'intérêt de les vacciner dans ce sens-là où elle ne risque pas grand-chose. Et par contre, en pleine puberté, moi j'ai un peu peur. Et voilà, donc je dirais à M. Véran qui dit que les enfants non vaccinés ont souvent des parents non vaccinés, ce n'est pas vrai. Nous, on est des gens responsables. Par contre, on a en tant que parents, on a un peu peur de vacciner des enfants si jeunes.
Bon, cher Georges, à titre personnel, je vais vous dire, on a quelques points communs. Moi aussi, je suis vacciné. Moi aussi, j'ai une fille de 12 ans. Après, la mienne est vaccinée. Ce que les scientifiques disent, et notamment donc pour les enfants de 12 à 18 ans, qu'on appelle les adolescents, c'est qu'il n'y a pas de risque. Donc, en ne lui permettant pas d'être vacciné, effectivement, vous la pénalisez par rapport aux camarades. Et puis, je ne sais pas si elle fait du sport, par exemple. Mais
Elle fait du sport, elle fait du basket. Mais je me permets aussi de vous dire, ça c'est mon avis propre, hein. mais le recul qu'on a sur les anciens vaccins qui ont quelques années et on peut vacciner les enfants avec un peu moins de risque, et puis c'est des vaccins classiques, je n'ai aucun problème là-dessus, mais sur un nouveau vaccin ARM qui est quand même un peu particulier, moi j'attendais, comme beaucoup de gens, j'attendais un vaccin classique. Et ce vaccin m'inquiète, donc je comprends les gens et je respecte les personnes qui ont décidé de vacciner leurs enfants, mais moi j'ai besoin d'un recul un peu plus long, parce que beaucoup de personnes en parlent, mais si dans 2-3 ans on a la pharmacovigilance qui dit qu'il y a un problème qui arrive un peu plus tard, je dis quoi à mon enfant? C'est moi qui ai pris la décision.
Bon.
Donc voilà.
Alors, déjà, moi, ce que j'apprécie, Georges, chez vous, c'est que le discours est posé, qu'il n'y a pas de vindicte et que c'est une réflexion, la réflexion d'un papa qui s'inquiète pour sa fille. Et effectivement, on l'entend. Bon, on rappelle bien sûr que ces vaccins ont été testés, que la Commission des médicaments de l'Union européenne l'a approuvé. Après, effectivement, il y a le doute. Bon, peut-être qu'on peut peut-être lui permettre de faire comme ses copines et de la vacciner. Mais bon, c'est votre choix. Georges, merci de nous avoir fait part de votre point de vue, qui est un point de vue réfléchi, encore une fois, je le répète. Et donc, qui s'entend? Bonne journée, Georges, à Aix-en-Provence.
Bonne journée à vous. Et puis, je vous remercie de m'avoir passé à l'antenne. Je vous souhaite une bonne année. Et je recommande aussi aux éditeurs à écouter en replay sur votre antenne le témoignage de Mme Béatrice Rosen et du professeur Clavry, qui est vraiment intéressant sur ce sujet pour les enfants. Merci beaucoup.
Allez, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir, Georges.
Sud Radio, curieux comme Rémi, Rémi André.
Il est toujours là, Rémi. Des tempêtes de glace sans précédent paralysent l'Alaska. Oh là, là, vous nous disiez qu'il faisait froid tout à l'heure. Là, ça va faire très froid. Après avoir été confronté à des records de chaleur et des pluies diluviennes en décembre, l'Alaska subit une série de tempêtes hivernales particulièrement violentes. Rémi, à quoi est dû ce phénomène qui, vu d'ici, semble pourtant ordinaire ?
Bien oui, c'est dû à de brusques changements de temps causés par le jet stream. Le jet stream fonctionne comme un ruban qui délimite l'air froid de l'air chaud et ses fluctuations sont normales. Vous savez, il est autour du pôle normalement. Cependant, l'hiver, il n'affecte en général que très peu l'Alaska et a plus d'impact au printemps, ce qui rend cette situation hivernale totalement inhabituelle. Les fluctuations du courant jet sont donc à l'origine de ces brusques changements de temps sur l'Amérique du Nord en formant une crête très marqué plus au nord que d'habitude. Le jet stream a laissé remonter de l'air doux et humide en provenance d'Hawaï sur l'Alaska. C'est cette remontée d'air quasi tropical qui a apporté la chaleur inhabituelle de décembre et les pluies diluviennes sur l'Alaska, lesquelles ont été suivies d'un soudain retour à un froid plus classique, gelant sur place cette humidité.
Bon, vous êtes en train de nous dire que ce sont deux phénomènes météorologiques extrêmes qui se sont succédés.
En effet, il s'agit d'une série sans précédent de phénomènes météo extrêmes. Dans de nombreuses villes, le 25 décembre 2021 a été le jour de Noël le plus doux jamais enregistré, mais aussi le plus humide, avec 50 mm d'eau relevée ce jour-là sur Fairbanks. Le 26 décembre dernier, l'Alaska a vécu son jour le plus chaud jamais enregistré à l'échelle nationale, cette fois lors d'un mois de décembre, 19,4 degrés sur l'île de Kodiak, alors que la moyenne à cette époque de l'année est de 3 degrés. L'après-midi. À Anchorage, le mercure est monté jusqu'à 15,5 degrés contre une moyenne de moins 5 degrés fin décembre. Alors, quelques heures après ce record, des pluies diluviennes ont touché l'intérieur du pays. Il n'avait jamais autant plu en si peu de temps depuis 1937, laissant beaucoup de routes inondées. Une brusque arrivée d'air froid a ensuite frappé le pays, conduisant à un épisode de verglas historique. À l'ouest de l'Alaska, cette glace a privé d'eau potable les habitants de plusieurs villes pendant près d'une semaine.
On rappelle que nous sommes tout au nord des États-Unis, donc le froid est plutôt habituel en Alaska, et surtout à cette époque, hein.
Oui, il est vrai que le climat de l'Alaska est généralement très froid l'hiver, de moins 20 à moins 40 degrés, mais aussi très sec. Fin décembre dernier et début janvier ont été marqués par un temps exceptionnellement humide. Si les températures basses enregistrées ces derniers jours sont classiques, le vent violent et l'humidité le sont moins, menant à plusieurs... ce qu'on appelle des tempêtes de glace, baptisées justement par les Américains Ice Mageddon, par les contractions en fait de Ice, glace, et du film apocalyptique Armageddon. Cette succession d'événements météo extrêmes, tempêtes, chaleurs records, pluies diluviennes et glace, est sans précédent depuis le début des relevés météo, selon le département des transports d'Alaska.
Eh bien, vous allez nous en faire un autre film. Merci, mon cher Rémi André. Dans un instant, l'actualité, et on s'intéressera bien sûr à ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée nationale.
5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel.
6h46, nous faisons un rappel des principaux titres de l'actualité. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. C'est ce que dit Emmanuel Macron ce matin dans une interview au Parisien. La stratégie, c'est de les emmerder jusqu'au bout avec la mise en place du pass vaccinal, ajoute-t-il en dénonçant l'immense faute morale des anti-vax. Emmanuel Macron qui, par ailleurs, évoque aussi sa possible candidature à la présidentielle. Le chef de l'État dit avoir envie d'être candidat, mais il assure que sa décision n'a pas encore été prise. L'épidémie, elle continue de se propager. Nouveau record de contamination enregistré ces dernières 24 heures. Près de 272 000 personnes testées positives en France. Plus de 20 000 malades du Covid sont actuellement hospitalisés. Un résultat de football, la Coupe de France. Victoire de Lyon aux dépens de Lille après l'épreuve des tirs au but. Lens donc, et pas Lyon, Lens qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Sang et Or recevront Monaco fin janvier. Tout de suite, on en parle. Le hashtag on en parle, nous allons sur les réseaux sociaux, nous voyons la tendance et nous vous en faisons part tout de suite. Évidemment, nous retournons à l'Assemblée nationale. La deuxième séance cette nuit après l'interruption de la veille a été tout aussi musclée. Le pass vaccinal n'a toujours pas été voté. Écoutez cette séquence. Marc Le Fur, vice-président de l'Assemblée nationale qui préside donc la séance, essaye de calmer les députés et n'y arrive pas.
Monsieur le ministre, vous avez la parole. Allez-y.
Ça ne veut pas. Alors, il va bien falloir à un moment donné qu'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, prenne la parole. Allez, il se lance.
Si vous pouvez me laisser... Président Chastaigne, laissez-moi deux minutes. Deux minutes. Laissez-moi deux minutes. On peut s'écouter deux minutes.
Alors, la situation est rendue d'autant plus compliquée que les propos du président de la République dans Le Parisien, qui veut emmerder les non-vaccinés, ont fait le buzz. Ça y est, les députés à l'Assemblée nationale sont au courant et Marc Le Fur va à un moment donné interrompre Olivier Véran.
Je vous redonnerai la parole tout à l'heure, mais là, la situation n'est pas tenable. Les travaux sont suspendus pour 10 minutes.
Ça, ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas, dit Olivier Véran. On aura bien compris que les députés étaient remontés. On aura vu sur les différents réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, la députée du Val-de-Marne pour la France Insoumise, l'Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon, déclarer « Il est 1h30, s'il ne vient pas, sous-entendu donc le Premier ministre Jean Castex, pas de poursuite des débats, nous l'attendons de pied ferme. Il n'est jamais venu, Jean Castex, et ça s'est terminé. » Bien comme ça, 2h du matin, rien du tout. Voilà, vous avez tous réagi, ça fait le buzz. Les commentaires y vont bon train, avec la tendance quand même générale. Eh bien, si nos hommes politiques n'arrivaient pas à être eux aussi dans la droite ligne de ce qu'on attend. Voilà, on va en parler tout de suite parce que ça sera le thème de toute cette matinée. Cécile de Ménibus et Patrick Roger nous ont rejoints. Voilà, mes chers amis, c'était ma première. Alors, j'ai découvert, hein, je me suis mangé quelques petits jingles.
Non. Ah, bonjour voilà. Frédéric, bonjour Cécile.
Plaisir en tout cas.
Bien sûr, c'était un plaisir de vous entendre. Et vous allez revenir, vous allez participer évidemment aussi à notre matinale. On va y revenir dans la revue de presse et on en parle tout à l'heure parce que, évidemment, quelle deuxième nuit agitée à l'Assemblée nationale. Déjà, ça avait commencé dans la nuit, avant-hier, là, dans la nuit de lundi à mardi. Boum, c'est reparti avec cette petite phrase du chef de l'État.
Et à mon avis, c'est pas fini.
Déclaration. Oui, alors. En même temps, sur Sud Radio, on dit parlons vrai. Le chef de l'État, il a parlé vrai. Alors, ça ne plaît pas évidemment à tout le monde. On va voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et on va l'évoquer aussi ce matin avec notre invité politique, notamment qui est Damien Abad. C'est le patron des LR à l'Assemblée nationale. Hier soir, il y était, je ne sais pas à quelle heure il s'est couché, évidemment, cette nuit, s'il s'est véritablement couché d'ailleurs.
Ça s'est terminé à 2h du matin.
Oui, aux environs de 2h du matin, mais après une nuit d'excitation et une soirée soirée d'excitation comme ça, qui plus est la seconde, à mon avis, c'était un petit peu difficile de pouvoir trouver le sommeil. On reviendra donc sur ces quatre vérités d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire sur cette crise sanitaire, sur le pouvoir d'achat, sur la présidentielle, où il dit que, bon, bah, évidemment, il en a envie, que finalement, le principal danger aussi pour cette présidentielle, c'est l'abstention. Et puis, évidemment, il revient aussi sur la polémique autour du drapeau européen. J'en suis fier, il faut l'assumer. Enfin bon, sauf qu'il y a quand même eu un petit bug au passage. Voilà, donc nous allons y revenir. Alexis Poulain, parmi nos débatteurs ce matin, qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux, justement, à la question que nous posons, Cécile ?
Ah bah, justement, sur la déclaration d'Emmanuel Macron, j'ai très envie de les emmerder. On va continuer de le faire en parlant des non-vaccinés. Et bah, est-ce que c'est une provocation ? Est-ce un discours clair ou c'est inacceptable pour l'instant, 76% pensent que c'est totalement inacceptable. Voilà.
Oui, voilà. Vous commentez, vous nous appelez 0826-300-300. On continue ensemble, Frédéric Brindel, Cécile Le Ménibus et puis toute l'équipe autour de John Keomanet.
Et restez avec nous jusqu'à
10h. Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Et Sud Radio, votre service, on parle de l'actualité des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Et Nicolas de Bronac est avec nous, bonjour.
Bonjour Cécile.
Bienvenue, vous êtes président fondateur de Sequoia Pressing. Il y a 13 ans, l'idée de ces pressings écologiques, c'était d'aider le consommateur à avoir une démarche responsable dans le domaine du nettoyage de vêtements.
C'est exactement ça. Il y a 13 ans, partout dans le monde et surtout en France, il y avait une seule technologie qui était utilisée, qui était le perchloroéthylène, qui était déjà pointé du doigt par les domaines publics, par les pouvoirs publics. Et ce fameux perchloroéthylène, la France a été assez courageuse, parce que c'est l'un des premiers pays au monde à l'avoir interdit, et est interdit maintenant de façon définitive depuis le 1er janvier de cette année. Et les pressings ont eu 12 ans quand même depuis 2008 pour avoir un calendrier pour pouvoir remplacer cette technologie qui était.
Ce qui était votre cas, justement. Alors, calendrier.
Alors nous on s'est lancé avant, sans ça on n'a jamais utilisé ce produit-là. Mais tous nos chers confrères ont eu 12 ans pour pouvoir changer de machine et changer de technologie pour s'adapter à un monde un peu plus responsable.
Oui, c'est ça. Vous, en parlant de cette technologie, parce que c'est très, très important, une technologie brevetée dont vous avez l'exclusivité en France aujourd'hui.
Voilà, nous, on avait mis la main sur une technologie brevetée, on avait acheté l'exclusivité du brevet, qui tombera dans le domaine public en 2025, donc encore quelques années, et ce qui nous a permis, dès le début de notre aventure, de s'abstenir d'utiliser ce produit-là, qui était déjà pointé du doigt à l'époque. Donc on a eu un petit peu de chance par rapport aux autres, c'est qu'on n'a pas eu à s'adapter, on avait un petit peu anticipé l'adaptation. Et il y a une problématique évidemment sur notre marché, comme dans beaucoup de marchés, c'est que cette date de fin programmée au 31 décembre 2021, évidemment il y a beaucoup d'acteurs qui ont choisi un peu le dernier moment pour changer de machine, pour changer de technologie. Et malheureusement il y a eu la crise du Covid qui a mis à mal beaucoup de trésorerie des entreprises.
Oui, donc ça a changé beaucoup de choses.
Notamment les plus petites et qui se retrouvent dans l'impossibilité, qui se retrouvaient en 2021 dans l'impossibilité financière de pouvoir faire les changements qui étaient obligatoires et qui aujourd'hui se retrouvent parfois bien malgré eux, un peu en la loi.
Est-ce que les clients avaient une mauvaise image du pressing en général ?
Malheureusement, les clients avaient une mauvaise image du pressing, pas forcément pour cette technologie polluante dont on a beaucoup parlé au début, en 2008-2012. Maintenant, non, les clients n'en parlent plus. Mais une mauvaise image pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un métier d'artisanat de qualité et il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans ce métier-là qui n'ont pas d'expérience. Avant, c'était un métier diplômant, comme les coiffeurs, comme les pharmaciens, ils font un diplôme de teinturier à plâtreur. Et depuis une vingtaine d'années, comme il n'y avait pas assez de personnes qui passaient le diplôme, le ministère a dit un pressing. Donc il y a des acteurs qui sont très sérieux, qui sont fantastiques, qui font bien les choses. Et il y en a, vous, Cécile, vous pouvez acheter un pressing demain matin et vous mettre derrière le comptoir.
D'accord, ok. Et pourtant, c'est un métier de savoir-faire, un métier d'artisanat.
Mais oui, c'est un métier qui est passionnant parce qu'il y a un gros savoir-faire pour pouvoir enlever des tâches techniques et repasser des vêtements parfois très fragiles. Et c'est pour ça que nous, on a fait la démarche il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant, d'être centre de formation agréé. Alors c'est compliqué, c'est casse-pied, c'est de l'administration pleine balle. Mais ça nous permet, depuis quelques années, de pouvoir former de façon très importante, pendant plusieurs mois, les personnes qui commencent à bosser chez nous. Ils ont 3 mois entiers de formation, donc c'est assez long quand même, 450 heures avant de techniquement parlant, recevoir un client et avoir la responsabilité de nettoyer un vêtement.
Et aujourd'hui, combien de séquoias, de bébés séquoias en France ?
Alors, en France, il y en a 70 mm-hmm. maintenant en France. Mm-hmm. On a une quinzaine d'ouvertures prévues pour cette année. On est présent au Maroc, on est présent en Russie et sur l'île de la Réunion, dans laquelle on en ouvre un deuxième d'ailleurs dans le mois prochain.
Et est-ce que la crise a ralenti l'activité ?
La crise a ralenti l'activité, pas le développement de l'entreprise, parce qu'on a ouvert une dizaine de pressings encore en 2021 et une dizaine en 2020 et on va faire une quinzaine cette année. Donc ça, ça n'a pas ralenti le développement. On a toujours beaucoup de partenaires franchisés qui s'intéressent à ce qu'on fait et nous, on ouvre d'autres boutiques. Par contre, ça ralentit énormément l'activité, ouais. parce qu'évidemment, le télétravail, l'absence de festivités, les gens sont moins habillés, donc sont moins allés au pressing.
Forcément, forcément.
Donc, l'activité était ralentie, mais était très bien repartie depuis le mois de septembre.
En tout cas, on vous souhaite une très belle année et beaucoup de succès pour l'année 2022. Merci beaucoup, Nicolas de Bronac, d'avoir été avec nous. Président fondateur de Sequoia Pressing. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Reste ensemble jusqu'à 10h. Bienvenue.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.